Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Assassinat sauvage d'un journaliste dans un consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie, ombre planante du Brexit au-dessus de l'Europe, sonnette d'alarme du GIEC sur le réchauffement climatique, on ne peut pas dire que l'automne soit gai côté actualité. Mais le journalisme n'est-ce pas aussi porter la plume dans la plaie, comme le disait Albert Londres, ce père de bien des journalistes. Au programme du grand débat de ce mois-ci, une possible prochaine crise financière, le sort d'Asia Bibi, la réforme des retraites et autres sujets libres. Cette émission donc d'actualité ce matin, le grand débat, voilà l'un des rendez-vous de cette émission Vivante Église, avec autour du plateau donc Daniel Cabanis, ancien professeur d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole et donc chroniqueuse géopolitique à Radio Présence. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Emmanuel Perrier qui est prêtre dominicain et enseignant en théologie au Studium des Dominicains à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et Bernard Ribal, agrégé, docteur en philosophie et président des Semaines Sociales de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Voilà Bernard Ribal qu'on entend très souvent en ce moment à l'antenne. On s'en réjouit, peut-être viendra-t-il un petit peu moins les mois prochains. Là ça fait quand même 3 émissions de manière rapprochée, mais bon ce n'est pas du tout une pique. On est toujours très heureux d'avoir des invités de votre qualité. On s'est dit qu'on allait commencer par parler crise financière. Alors certains auditeurs vont se dire, mais la liste était déjà longue des mauvaises nouvelles au début de cette émission. Il en rajoute une dont on ne parle pas. Que lui prend-il ? C'est un des invités qui m'a suggéré cette piste. On entend de temps en temps parler ces derniers temps d'une possible prochaine grande crise financière après celle de 2008. Entre autres, Nouriel Roubini, considéré un peu comme un des papes de l'économie depuis que cet économiste avait prédit la crise de 2008 des subprimes, et ce semble-t-il dès 2006, entre autres dans un discours au FMI, on l'appelle du coup docteur catastrophe. Il dit qu'en 2020, on pourrait avoir une nouvelle grande crise et il y aurait 5 ingrédients, je vais commencer juste par ça, détonnant, le prix du pétrole, le ralentissement de l'économie chinoise, l'hyper-endettement des différents États, on pourra citer quelques chiffres, et des bulles financières, semble-t-il, un peu partout. Alors Emmanuel Perrier, comme c'est vous qui m'avez suggéré ce sujet, pour ne pas vous démasquer, quelle est votre première réaction à cette possible information ? Donné donc par Dominique, rapporté par Dominique Seux sur France Inter il y a quelques jours.
Oui, alors il y a celle-là, mais il y a aussi des notes d'analyse de Morgan Stanley, il y a aussi un certain nombre d'économistes et le FMI en premier qui s'inquiètent, il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent en ce moment. Et puis on voit par exemple ces derniers jours les bourses qui commencent à frémir un petit peu vers la baisse et parce que les taux d'intérêt remontent. Et en fait, pourquoi est-ce que je m'intéresse à cela ? Pourquoi est-ce que cela suscite mon attention ? Parce que en 2008, on avait une crise qui était née d'un excès de dette. Et on aurait pu croire que l'excès de dette entraîne une certaine modération dans l'usage des dettes. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a sauvé...
Il y a eu comme un transfert des dettes, en fait. C'est...
Exactement. On a sauvé le système financier en augmentant encore et en démultipliant encore l'effet de la dette. De sorte que aujourd'hui, on a fragilisé l'ensemble du système mondial et comme les éléments géopolitiques sont un peu actuellement des vents contraires de l'engouement des années précédentes, il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a des frictions et donc les perspectives économiques ne sont plus aussi bonnes, de sorte que notre système financier est en danger. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Parce que je crois que une économie qui fonctionne sur la dette, c'est une économie dans laquelle on obère... Alors, sur la dette, non pas pour investir, sur la dette pour consommer. C'est une économie dans laquelle on obère l'avenir pour jouir du présent. Et c'est un signe de sociétés qui vont mal, qui ne pensent pas à leur continuité, qui ne pensent pas à leur avenir. Et c'est un signe aussi de crise culturelle, de ne pas être capable de trouver les ressorts pour prendre un peu de distance.
Alors si ça vous embête pas, je vais donner quelques chiffres et laisser réagir un peu les autres. Peut-être pour expliquer un tout petit peu vos propos, donc, il y avait donc cette grande crise des subprimes en 2008. On va peut-être pas expliquer ce que sont à nouveau les subprimes, mais bref, c'était une crise autour des crédits immobiliers, crédits à risque, et derrière, un certain nombre de banques se sont retrouvées dans l'incapacité en fait de rembourser l'argent qui avait été emprunté. Et donc, on explique en long, large et en travers qu'en fait, la dette a été quelque part transférée auprès des États. Je vais juste citer un ou deux chiffres. En 2008, la dette des États-Unis était de 67,7% du PIB. Aujourd'hui, elle est de plus de 105. Ça fait quand même 2400 milliards. Pour la France, on est passé de 68,8 à 96,8. Et je suis tombé sur ce chiffre que je ne connaissais pas. La dette mondiale est de 225% du PIB mondial, soit 160 000 milliards de dette. Ça fait beaucoup, Daniel Cabanis.
Oui, d'ailleurs, de tels chiffres, à la limite, n'ont plus aucune portée.
Ça fait beaucoup de zéros. Moi, je me suis mis les zéros devant, quand même. Je me suis dit...
Tout à fait. Mais on
c'est angoissant.
On n'arrive plus à savoir ce que c'est.
Ça fait 64 000 milliards. Mais moi, ça ne me dit rien non plus.
On n'arrive pas à l'intégrer. Cela étant, comme vous le dites, c'est beaucoup. Et ce qui est inquiétant, et là, je vais tout à fait dans le sens de frère Emmanuel, c'est que il y a un refus de la très grande majorité des gens d'intégrer cela dans leur comportement. On s'est, beaucoup d'entre nous, on s'est mis dans des espèces de tubes avec des objectifs qui sont extrêmement personnels, pas forcément ni déshonorants ni immoraux, mais qui ne tiennent absolument pas compte de la présence des autres. Et tous ces tubes allant tous dans le même sens, sans aucune connexion.
Si ce n'est qu'il n'y a pas que la dette des particuliers, en l'occurrence. C'est la dette des entreprises, la dette des banques, la dette des États.
Totalement.
Mais tout le monde est endetté.
Il y a des petits tubes et des gros tubes, si l'on peut dire. Mais ça revient un petit peu au même, à savoir que l'idée qu'il y a une sorte de solidarité, les financiers n'aiment pas trop ce mot-là, mais il faut bien qu'ils se le mettent dans la tête, parce que c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Une solidarité entre les différentes entités ayant été totalement gommée, la possibilité d'anticiper devient de plus en plus difficile, et c'est vrai qu'on n'aime pas entendre les cassandres. Hein, quand quelqu'un vous annonce une catastrophe, on se jette plutôt sur celui qui vous dit « Oh, c'est pas si grave que ça ». Or, de temps en temps, il faut affronter la difficulté en face. Et là, on a des chances éventuellement de gagner contre elle. Sinon, on n'y arrive pas.
Bernard Ribal, une question vient tout de suite. J'aimerais que vous essayiez de répondre à celle-là, si c'est possible. C'est qu'on se dit qu'on avait entendu qu'il y aurait une réforme du système financier. Alors, j'avais entendu parler des fameuses règles de Bâle III, qui sont des nouvelles règles pour les établissements bancaires. On dit que les banques ont été un petit peu contraintes d'évoluer, c'est-à-dire que le ratio des fonds propres est aujourd'hui plus élevé. Il était, semble-t-il, de 2-3%. Aujourd'hui, il serait de 4 ou 5%. Bref, on a pris quelques mesures, mais la question...
De 30%.
La question, pardon, il faudrait que ça soit 30%.
Ouais.
Et la question, c'est ce transfert des dettes aux États. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que vous répondriez sur la question de la réforme? N'y a-t-il eu pas grand-chose de fait, grosso modo?
Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec mes deux amis autour de cette table. Il s'est quand même passé ce que vous avez dit, mais il s'est passé aussi un certain nombre de prises de conscience et de réformes. Union bancaire au niveau de l'Europe et intervention de la Banque Centrale Européenne en dehors même de ses prérogatives. Quand on dit par exemple que les taux augmentent, que la Fed augmente ses taux, en général, dans la conjoncture actuelle, c'est plutôt bon signe. Hein. Si elle augmente, c'est que l'économie s'améliore et non pas qu'elle se détériore.
Sur les volets des réformes, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous qui avez l'air d'être plus informé que
non,
nous, qu'est-ce qui a été fait de supplémentaire, hormis ces règles de Bâle III et des ratios de fonds propres plus élevés pour les banques? Le fait 4-5%, c'est quand même pas colossal.
Non, mais ce qui... on va pas entrer dans le détail, mais la Banque Centrale Européenne, à l'échelle de l'Europe, est intervenue pour, disons-le, sauver les banques, parce qu'il y en avait quelques-unes qui étaient quand même en danger, et a racheté la dette, pour des sommes d'ailleurs énormes, puisqu'elle avait mis de côté, enfin elle avait mis de côté en théorie, c'est l'argent virtuel, hein, 1100 milliards pour le rachat de la dette, et donc ça a rassuré les marchés. quant à la bulle financière, elle a toujours existé. Enfin, c'est pas un événement, la bulle financière. Hein. Il n'y a pas eu une seule période de l'histoire en dehors des krachs boursiers, d'accord. Mais en dehors des krachs boursiers, il n'y a pas une seule époque de l'histoire du CAC 40 qui est récente, hein, l'histoire du CAC 40, où il n'y ait pas le CAC 40 en bulle financière. Et en général, c'est quand il dépasse 6000 qu'il y a risque. Hein. Les deux fois où il a dépassé 6000, effectivement, il s'est passé quelque chose.
Donc il n'y a pas, de motif d'inquiétude. Votre analyse est différente, mais pour vous, il n'y a pas de motif d'inquiétude. 225% d'endettement du PIB mondial, c'est
non,
pas...
Non, parce que tout ça, c'est des chiffres à la fois vrais et théoriques, parce que ce qui compte, c'est la confiance des investisseurs, la confiance des marchés financiers. Et vous avez sans doute remarqué que quelque chose avait disparu du champ médiatique, c'était ce qu'on appelait les agences de notation. Moi, je me souviens, on ouvrait son poste de radio, qu'est-ce qu'on avait en premier? On était noté A plus 3 plus ou 2 A moins,
je ne sais pas quoi. Elles n'ont pas disparu pour autant.
Elles n'ont pas disparu pour autant, mais tout le monde se fiche éperdument de ce qu'elles peuvent dire. Il y en a même qui sont d'ailleurs en difficulté financière, du coup. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est pas du tout l'endettement en question. Ce qui compte, c'est quel est le taux avec lequel un État emprunte. C'est pas forcément directement lié à son endettement. La preuve, c'est que la France a un endettement de 97% et qu'on emprunte pour presque rien sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une confiance dans l'économie globale.
Alors on va laisser Emmanuel Perrier, peut-être vous vouliez aller plus loin dans votre intervention tout à l'heure, sur le problème culturel que ça peut poser.
Oui, alors, alors là pour le coup je ne partage pas tout à fait votre avis, ça me paraît très inquiétant, parce qu'il y a un ordre du réel, c'est-à-dire que là on est dans des créations monétaires qui nous font passer dans un système purement économique virtuel, avec un certain nombre de conséquences qui ont été notamment une concentration des richesses entre certaines mains, c'est-à-dire les mains qui recevaient la manne financière, et une augmentation de la précarité dans un très grand nombre de pays, notamment le nôtre.
Plus d'un million de pauvres, de gens sous le seuil de pauvreté en France. Hein, la crise
en
de 2008, c'est les chiffres du Secours catholique. Hein.
Voilà, on est à 20 millions de personnes qui sont au ticket d'alimentation aux États-Unis, hein, la soi-disant économie qui va très bien. En réalité, ce qui moi m'effraie, c'est que ce système, cette soumission à l'économie de la dette pour consommer, c'est une soumission dans laquelle il y a un développement phénoménal des injustices, parce que justement, il n'y a plus de réalité des prix, il n'y a plus de réalité des taux, il n'y a plus de réalité du capital, de sorte que les ajustements se font sur les parties les plus faibles. Cette augmentation de la précarité me paraît très gênante, d'abord du point de vue de la justice, fondamentalement. On le voit aujourd'hui dans nos familles, autour de nous. Il y a un sentiment d'angoisse, d'inquiétude qui naît et qui se développe. Et puis aussi parce que, du point de vue politique, ça va avoir des conséquences. Hein. Ça n'est pas pour rien qu'on voit apparaître une certaine mécontentement, des révoltes, de l'émotion et de la passion qui se mettent à animer les débats politiques, parce que, tout simplement, il y a une justice dans l'équilibre des nations, l'équilibre des comptes, qui n'est plus là.
Voilà, s'il y a une confiance des marchés, la confiance des peuples n'est pas tout à fait acquise.
Oui, mais alors, c'est sans doute à Daniel m'a parlé, mais je voudrais...
Allez-y, je vous en prie.
Je voudrais dire quelque chose, c'est que là, il faudrait qu'on sache bien de quoi on parle. Si on parle de la précarité qui augmente, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un grave problème, y compris, non seulement économique et social, mais politique. Mais nous parlons de la crise financière, et il y a bien un rapport entre les deux, mais ce n'est pas un rapport de cause à effet. Si je regarde l'actualité imminente, à savoir jeudi, là, aujourd'hui, hier, il y a une réunion à la BCE sur l'Italie, sur le budget italien, et qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait qu'on tendrait éventuellement vers une crise? C'est pas du tout pour favoriser les profits des marchés financiers, c'est parce que le gouvernement italien veut lutter efficacement contre la précarité. Et c'est ce qui fait qu'il met un budget en déficit énorme, tel que la Commission refuse ce budget. La crise, elle est là. Et c'est là,
elle est là aujourd'hui. Elle est là aujourd'hui, c'est votre analyse.
Et c'est pour lutter contre la précarité, là. C'est pas du tout le. Il n'y a pas ce lien de cause à effet. La précarité, elle procède de ce que dit François dans Laudato aussi, à savoir que tout le système économique mondial est tourné vers le seul profit du capital, ce qui entraîne à la fois les désastres écologiques et la précarisation.
J'avais peut-être une dernière remarque. Daniel Camille, je ne sais pas si vous voudrez à nouveau intervenir. J'ai découvert, enfin, je l'avais entendu parler, mais là, j'ai regardé un petit peu plus précisément aussi que, donc, depuis la crise de 2008, s'est développée une autre finance, la finance de l'ombre. On appelle ça le shadow banking. C'est-à-dire que, on va dire, les emprunts les plus risqués des banques sont titrisés dans des marchés, dans d'autres marchés, c'est-à-dire qu'ils sont hors bilan. Et cette activité bancaire de l'ombre se serait développée de manière exponentielle. Le Luxembourg étant un des plus gros lieux de ce shadow banking en Europe. On entend ce que dit Bernard Ribal, hein, peut-être voilà quelques remarques ou mises en garde, etc. Mais on a quand même le sentiment, quand on est citoyen lambda, que tout ça nous échappe de plus en plus. Le shadow banking, c'est quand même assez, pour le coup, nébuleux et inquiétant.
Alors, c'est vrai que le shadow banking est quelque chose de totalement impénétrable, sauf pour quelques spécialistes. En réalité, je crois qu'on peut peut-être tempérer un tout petit peu le rejet qu'on aurait spontanément à l'égard de cette forme d'activité bancaire, parce qu'il y a une autre forme d'activité bancaire qui se développe et qui est porteuse d'un certain espoir. C'est tout ce qui tourne autour du microcrédit. Alors, bien entendu, en termes de montant, ça n'a rien à voir.
Oui, qui est quand même assez marginal.
Ça reste marginal, mais pour certaines sociétés qui sont des sociétés marginales, ça leur permet de réémerger. On le voit, par exemple, dans la zone extraordinairement pauvre de Djibouti. C'est par le biais du microcrédit, et c'est très modeste, mais toute une série de femmes qui n'avaient aucune activité, qui ne pouvaient rien faire, ont pu remonter des toutes petites entreprises qui leur permettent de nourrir leur famille. Et c'est important parce que les hommes sont, entre guillemets, exportés comme force de travail ailleurs. Donc, ça assure une certaine stabilité. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et essayer justement de percer ce mur d'ombre autour du shadow banking. Mais en même temps, valoriser ce qui est positif et qui ne devrait pas susciter la réaction globale de rejet qu'on a à l'égard de la finance. Parce que l'argent, ce n'est pas le diable. C'est ce qu'on en fait qui est diabolique, éventuellement. Donc, il faut savoir garder l'outil et l'utiliser intelligemment lorsqu'il peut être efficace.
On va faire une première pause et puis après on va vous retrouver pour parler d'Asia Bibi, cette Pakistanaise dont le sort devait être, j'allais dire, réglé. En tout cas, la justice pakistanaise devait statuer sur son cas et la nouvelle est tombée que c'était reporté, mais c'est l'occasion de parler de cette femme et de ce qu'elle vit.
Supremo nimine, factus laudabilis.
Le grand débat, c'est donc l'émission Vivante Église de ce matin, émission d'actualité. Pour rappel, une fois par mois, on reprend les sujets d'actualité, du mois en tout cas certains, et puis on demande à nos invités de les commenter pour avoir leur regard avisé sur ce que l'on a pu lire ou pas dans les journaux. Autour du plateau, Daniel Cabanis, pour rappel, ancien professeur d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole, chroniqueuse géopolitique à cette même antenne, Emmanuel Perrier, prêtre dominicain et enseignant en théologie au Studium à Toulouse, chez les Dominicains, et Bernard Ribal, agrégé docteur en philosophie et président des Semaines Sociales. Asia Bibi, alors, comme pour chaque sujet, je vais essayer de résumer. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est un petit peu difficile. C'est donc une femme pakistanaise qui a été condamnée pour blasphème, dont le sort est, n'est pas encore jeté. Se réunissait cette semaine la Cour suprême du Pakistan qui devait déterminer si Asia Bibi était finalement libre ou condamnée à mort par pendaison. C'était donc le 13 octobre. Le jour prévu pour l'audience, un des juges se récusa et donc le procès a été reporté sine die. On peut peut-être expliquer pourquoi cette femme a été condamnée pour blasphème. Mari, si j'ai bien compris, avait été marié une première fois, une certaine Yasmine, et Asia Bibi, donc deuxième épouse, un jour de cueillette, se rend avec des femmes dans un champ et une des femmes refuse de boire l'eau qu'Asia a rapportée à ses femmes. Et Asia aurait eu le malheur de dire à ses femmes que le prophète n'aurait pas été d'accord avec leur réaction. Semble-t-il, cette Yasmine, première femme jalouse, aurait pris prétexte de cela pour monter une cabale contre elle, ou en tout cas pour la dénoncer aux autorités. Et aujourd'hui, cette femme vit dans une cellule sans lumière. Elle a deux enfants, je crois. Et son mari lui apporte sa nourriture toutes les semaines parce qu'il a peur qu'elle soit empoisonnée. Voilà pour
et
la
ce qui n'est pas un détail par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'elle est chrétienne. Quoi.
C'est qu'elle est chrétienne, pardon, excusez-moi. Oui, en effet, c'est important de le dire. Allez, Daniel Cabanis sur Asia Bibi, cette martyre comme elle a été présentée par le pape François. Alors, près du micro, c'est mieux.
Alors, pardon, Asia Bibi est un cas intéressant qui, en fait, n'est pas aussi isolé qu'on pourrait le croire. Il se trouve qu'il a été médiatisé, car dans certains pays où la charia s'applique de manière extrêmement stricte, la condamnation pour blasphème, en fait, est extrêmement fréquente. La plupart du temps, elle vise des gens qui appartiennent à la religion dominante, c'est-à-dire des musulmans reconnus comme tels, mais qui sont accusés de ne pas être de bons musulmans et qui sont dénoncés par leurs frères en religion. Le cas d'Asia, à ce titre-là, est un peu original, oui, même oui, si oui. Avec raison, oui, Bernard a souligné qu'elle oui. Était chrétienne, parce que déjà, être chrétien ou chrétienne dans ces pays-là est extrêmement difficile, sauf à dissimuler totalement sa foi. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a sans doute cru bien faire. Elle n'a pas invoqué Dieu tout court. Elle a parlé du prophète, ce qui normalement était audible par les autres. Mais pour une raison de jalousie ex-conjugale, si l'on peut dire, on a foncé sur l'occasion pour dire qu'elle avait blasphémé. Parce que de temps à autre, ça n'est pas absolument systématique. Mais lorsqu'un non-musulman évoque le prophète, quels que soient les propos qu'il tienne, il est considéré comme étant en train de blasphémer parce qu'il est un chien qui n'a pas le droit de parler de ce qui ne lui appartient pas.
Asia Bibi, pardon, qui a 5 enfants et l'une de ses filles a rencontré le pape François en 2015. Bernard Ribal, sur Asia Bibi, quel serait votre premier commentaire ?
Ce qui a particulièrement médiatisé le cas fréquent, en fait, oui, effectivement, d'Asia Bibi, c'est que le gouverneur du Punjab, qui était la province, qui est la province d'Asia Bibi, a été assassiné parce qu'il prenait la défense d'Asia Bibi.
Salman Taseer.
Et que le ministre fédéral donc, de l'Inde, sorte de secrétaire d'État plutôt que ministre, mais chargé des minorités religieuses. Alors lui, il était catholique et il a été lui-même assassiné parce qu'il prenait parti pour Asia Bibi. Donc là, évidemment, ça médiatise énormément le phénomène.
Et ça divise la société pakistanaise, si j'ai bien compris.
Le problème, c'est qu'on ne s'y retrouve plus du tout, même en termes de géopolitique, pas simplement le Pakistan. Parce que on a dans la même zone continentale, on a quand même un prix Nobel de la paix en Birmanie qui se trouve chef de tortionnaire et dans une bataille religieuse entre bouddhistes et musulmans.
Donc vous pensez à Aung San Suu Kyi?
Là, on n'y comprend plus rien du tout. Là. Au Pakistan, on a un pays officiellement allié des Occidentaux et particulièrement des États-Unis, mais qui a les talibans sur son territoire et qui les protège plus ou moins. Bref, il y a un brouillard qui fait qu'on a des difficultés à s'y retrouver et on ne sait même pas, nous, Français, ou Occidentaux en général, s'il faut manifester ou pas. Parce que si on ne manifeste pas, d'ailleurs si on n'avait pas manifesté, elle serait pendue depuis longtemps. Hein. Mais manifester, c'est embêtant aussi, parce que ça excite le sentiment de ceux qui veulent à tout prix la pendre, en disant c'est les Occidentaux qui commandent, même le Pakistan est commandé par les Occidentaux, donc il faut encore plus la pendre. Quoi. Bref, on est... Et là, on peut voir quand même une différence entre la religion islam, plus dans ses extrêmes que dans sa modération, mais il y a le Coran quand même, hein, il y a des écritures, et le christianisme. C'est que décréter impur, au point qu'on ne puisse plus toucher le verre que quelqu'un d'autre a touché, ne peut pas, n'a aucun lien possible là avec la conviction chrétienne de la dignité de la personne humaine, de l'universalité de la dignité de la personne humaine. Attention, hein, les chrétiens, ils n'ont pas été des modèles pendant longtemps, ils ne le sont toujours pas d'ailleurs. Mais je parle des convictions, et non pas du respect des valeurs. Dans ces convictions-là, la notion d'impureté et de l'infidèle est quand même un problème difficile à supporter et à résoudre.
Emmanuel Perrier, deux jours avant, 150 mouftis ont édicté une fatwa exigeant la pendaison d'Asia Bibi.
Alors je pense que le cas d'Asia Bibi, alors Bernard Ribal l'a bien souligné, hein, ça nous place dans une situation ambiguë que de le rappeler, parce que ça donne l'impression d'une ingérence dans les affaires pakistanaises, mais en même temps, on ne peut pas penser à tous ces chrétiens dans le monde qui, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ce matin, vont vivre une journée de brimade, de persécution,
on dit que ça se compte
de discrimination.
Par dizaines de millions. Hein.
Oui, c'est... Voilà. Et donc, au travers d'Asia Bibi, de cette personne à laquelle on peut penser, de cette situation qui dure quand même depuis 10 ans, hein,
oui,
je crois.
Ça fait 10 ans. Même presque.
En fait, on a un bon résumé de cette situation. Le deuxième... je voudrais tirer un deuxième enseignement qui est plus d'ordre... on va dire politique ou théologique. Dans cette affaire, il y a Asia Bibi qui est la victime. Il y a une deuxième victime qui est Dieu. C'est-à-dire que cette histoire de blasphème, il n'y a pas de blasphème. Le blasphème est une offense contre Dieu. Hein. Or, en tout cela, c'est de la jalousie entre homme, du ressentiment, de la rancune, etc. Et en fait, il y a une instrumentalisation du blasphème, uniquement on prend à partie Dieu dans des querelles humaines qu'on n'est pas capable de résoudre et qui en fait sont elles-mêmes la vraie offense à Dieu. Le vrai blasphème à Dieu, c'est cette manière de ne pas être capable de résoudre humainement des situations humaines.
Emmanuel Paris, est-ce que ça pose pas une autre question, en fait, sous-jacente, qui fait que aussi ce Asia Bibi est un symbole qui intéresse l'opinion publique, celui de la liberté religieuse et de la liberté religieuse en islam. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Vaste sujet. Disons que elle est de toute façon et elle a toujours été problématique. Voilà. Et c'est ainsi. Il est clair que, de toute façon, quel que soit la nation, le peuple dans lequel on vit, lorsque l'on appartient à une minorité par rapport aux convictions de la majorité, on s'expose évidemment à être considéré un peu de manière marginale, à des discriminations, voilà. Lorsque ça porte sur des constituants identitaires, on va dire, de la majorité de la population, ça peut devenir plus violent. Ça peut, parce que beaucoup de choses sont en jeu, ça touche l'identité politique, ça touche l'identité personnelle. Voilà. Mais il est clair que...
C'est une question posée à l'islam, quand même, aujourd'hui, celle de la liberté religieuse.
C'est une question... Alors, la liberté religieuse, elle ne va que dans un sens, c'est-à-dire vers la conversion à l'islam. Voilà. C'est la seule liberté religieuse qui est défendue dans les pays musulmans. Il y a de toute façon, derrière, la place de la conscience humaine, la place de du droit à penser par soi-même, du droit à avoir une raison, et à penser, à s'exprimer, qui, au-delà même de la liberté religieuse, montre que ce qui est en jeu, c'est d'abord aussi des sociétés politiques. Parce qu'une société politique dans laquelle on ne peut plus exercer sa raison librement et s'exprimer librement, c'est aussi une société politique qui va vivre des crises, et ce que l'on voit.
Daniel Cabanis, c'est pas très politiquement correct de poser cette question, mais en même temps, il faut bien qu'on ose la poser de temps en temps, la question de la reconnaissance de la liberté de conscience, la liberté de religieuse dans l'islam. Il y a en fait quelque part des voix dissonantes. Hein, si je résume à très gros traits, on a l'impression que dans l'immense majorité du monde musulman, c'est une question difficile, à laquelle l'islam répond plutôt par la négative, qu'il y aurait, on va dire, dans notre Occident, un certain nombre de musulmans qui plaiderait pour une autre vision de l'islam. Je m'étais sorti, mais difficile de retrouver les bons passages, un livre de Samir Khalil Samir, Les raisons de ne pas craindre l'islam, paru aux éditions des Presses de la Renaissance, qui est assez connu. Alors bon, après, il est peut-être moins apprécié par certains, qui rappelle que dans le monde musulman, souvent, les chrétiens vivent ce qu'on appelle en situation de dimitude, c'est-à-dire d'infériorité citoyenne. Qu'est-ce que vous diriez sur cette question ?
Ben, je crois que c'est le danger de toute religion, et même au-delà de ça, ça peut être vrai en matière politique, qui se veut absolument globalisante et donc dominatrice. Alors, ou bien elle va jusqu'au bout de sa logique, qui est une logique d'extermination ou d'adhésion forcée, ce qui revient parfois à peu près au même, de ceux qui ne partageaient pas d'entrée de jeu l'opinion dominante, ou bien on s'arrête en chemin avec... une tolérance au petit pied, c'est-à-dire qu'on peut vivre, mais on vit difficilement avec des droits restreints et des droits qui sont susceptibles d'être menacés parce qu'il n'y a pas de garantie. Et c'est vrai que dans pas mal de pays musulmans, c'est la situation qui est vécue objectivement par les non-musulmans, et dans d'autres pays qui ont encore une certaine tradition de tolérance, c'est la crainte que ce soit vers cela qu'on se dirige. Un exemple, par exemple, c'est le Maroc. Un Maroc dans lequel, pendant des décennies, voire plus que cela, musulmans, juifs et chrétiens ont vécu en plutôt bonne harmonie, on constate une dégradation par tout petit pas, beaucoup de juifs marocains quittent le Maroc, beaucoup de chrétiens qui vivent au Maroc sont sous une surveillance extrême, tout simplement on craint le prosélytisme et qu'ils soient catholiques ou protestants, ça change rien, c'est les chrétiens sont vraiment tenus en respect, et il ne s'agit pas qu'ils remuent une oreille ou qu'ils ne fassent quoi que ce soit qui puisse entraîner une extension de leur foi.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, Bernard Ribal, sur cette question de la liberté religieuse, la liberté de conscience dans l'islam. C'est une des questions, en tout cas, qui est posée aussi à l'islam de France, comme on dit, même si cette expression n'est pas appréciée par certains.
Oui,
l'islam en France.
Là, je travaille pas mal sur cette question, puisque je préside le conseil scientifique là, de l'Institut des hautes études du monde religieux, où il y a toutes les religions, plus l'observatoire de la laïcité dans la gouvernance. Et je suis tout à fait le militant pour non seulement la paix religieuse, c'est d'ailleurs pas l'objectif principal de l'Institut, c'est de faire se connaître les religions au niveau le plus approfondi, puisqu'on s'adresse à des responsables politiques, économiques. Bon. Je ne rencontre que des musulmans très favorables à la liberté religieuse. Mais je crains qu'on les rencontre plus souvent en Europe occidentale et en Amérique du Nord que dans les pays à majorité musulmane, quoi. L'islam européen, qu'on a tendance parfois à critiquer parce qu'il y a des excès d'imams, on en expulse quelques-uns, mais globalement, c'est un islam avec lequel non seulement on peut coexister, mais avec lequel on peut coopérer dans la majorité des cas. Le problème, c'est que ça ne me paraît pas pareil dans les pays à majorité musulmane.
Voilà, pour finir, pour Asia Bibi, donc lors de la rencontre du pape François donc avec Asia Bibi, avec une de ses filles, le Colisée avait été éclairé en rouge et le pape avait dit « ce sont deux martyrs » et il avait dit à sa fille « je pense très souvent à ta mère et je prie pour elle ». On va faire une deuxième pause et on va parler entre autres de la réforme des retraites.
Benedictus qui venit in nomine.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel l'émission de ce jour, émission d'actualité avec autour du plateau Daniel Cabanis, chroniqueuse géopolitique sur Radio Présence, entre autres Emmanuel Perrier, prêtre dominicain, enseignant en théologie au Studium, chez les Dominicains à Toulouse, et Bernard Ribal, agrégé et docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse. Comme promis, donc les retraites. Il y a donc une réforme des retraites qui est en cours, annoncée par Emmanuel Macron, même si elle a été reportée, présentée par le haut commissaire en charge de ce dossier, Jean-Paul Delevoye. Je vais essayer aussi de résumer le propos. C'est présenté comme un Big Bang de la réforme des retraites, puisqu'on changerait de fonctionnement. Ça serait maintenant un système de retraite à points. On passerait de 42 régimes de retraite à un seul. L'essentiel ne serait pas touché, dit-on, c'est-à-dire possible départ à la retraite à 62 ans les personnes qui ne seraient concernées que celles qui prennent leur retraite dans 5 ans. C'est une manière très très rapide de résumer. Certains se félicitent de cette retraite qui va permettre un peu plus de visibilité, de lisibilité et on l'espère d'équité sur ce sujet. Et d'autres, ça sera peut-être ma question, disent que c'est une manière déguisée de faire en sorte que les pensions diminuent. Il y a une vidéo qui circule beaucoup en ce moment, c'est un discours de François Fillon devant la Fondation Concorde qui explique doctement que l'avantage de la retraite à points, c'est que on peut varier la valeur du point, faire varier la valeur du point. Bernard Ribal, sur cette question des réformes des retraites, bonne ou mauvaise nouvelle ?
Eh bien, on aurait pu croire que ça soit très mal accueilli, parce qu'on a cette habitude, en France.
Bien accueilli par les syndicats, oui.
Et que ce soit donc, comme d'habitude, très mal accueilli par tout le monde. Et finalement, c'était le 10 octobre, à la sortie de chez Jean-Paul Delevoye, on apprend d'abord que la CGT est faux, n'ont pratiquement rien dit pendant la réunion et n'ont pas protesté. À la sortie, ils ont protesté, mais on connaît maintenant, c'est comme dans la diplomatie, ça, hein. On connaît avec le langage, avec les éléments de langage, on sait que si c'est haut, bas, moyen, c'était plutôt moyen, et non pas très, très violent. Les autres syndicats ont mis en garde sur certains aspects, mais n'ont pas été défavorables sur le principe. Okay. Le MEDEF, lui, il a l'air content.
Alors pourquoi ?
Je crois que tout le monde est conscient, en pleurant hein, quand même, hein. Mais tout le monde est conscient qu'il y a 1,3 actifs pour un retraité dans le monde des salariés et dans le monde du travail en général, 1,7 actifs pour un retraité. Alors qu'avant, on n'était pas dans ces chiffres-là et on faisait déjà du catastrophisme. Hein. Donc il est très difficile d'arriver à maintenir les retraites dans les pensions qui sont versées.
Mais qu'est-ce qu'une retraite à points vient changer ? On se demande. C'est juste une manière de fonctionner différente, mais c'est pas.
Non, ça donne d'abord.
Qu'est-ce que ça a comme incidence ?
Ça donne d'abord plus de visibilité, de transparence et sans doute d'équité, parce que c'est un système universel qui est proposé. Voilà. Actuellement, il y a 42 régimes. Hein. En comptant quand même les complémentaires dedans. Hein. Il y a 42 régimes et il n'y en aurait plus qu'un. Alors en fait, c'est un petit mensonge parce qu'il n'y en aurait plus qu'un, mais avec des variantes pour corriger les inégalités entre travailleurs indépendants, parce que les travailleurs indépendants entreraient dans le système. Mais ils auraient des points pas tout à fait identiques. Enfin bon, finalement, il y en aurait. Ce ne serait pas un système tellement universel que ça.
Mais privé-public serait sur le même régime.
Oui, serait sur le même régime. C'est vrai
le même mode de calcul.
Oui, c'est vrai que là, il y a quand même quelques inégalités entre le public et le privé, puisque je ne veux pas entrer dans les détails, mais aujourd'hui, c'est les 6 derniers mois qui comptent pour calculer la retraite dans
la fonction publique. Alors que c'est 25 ans pendant
le
privé.
Alors c'est les 25 meilleures années dans le...
Et donc la réforme prévoit aussi que ça serait les 25 dernières années pour le public.
Oui, ni l'un ni l'autre, hein, puis ce serait tout par point.
Oui, en effet.
Ce serait tout par point, donc il n'y aurait plus besoin de calculer le nombre d'années. Vous avez souligné que ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, il n'y a rien qui change pour eux. Il n'y a rien qui change non plus pour ceux qui sont en ce moment en exercice, qui ont cotisé de la manière actuelle, en fonction, et cela garderait les avantages qu'ils ont eus jusqu'à présent. Donc c'est un peu rassurant, c'est peut-être pour ça que il n'y a pas trop de... ça bouge pas trop. La mauvaise nouvelle, ou je ne sais pas...
Alors quid de cette vidéo-là de François Fillon qui circule, cette intervention donc, devant la Fondation Concorde, qui dit que l'avantage de la retraite à points, c'est qu'on peut la faire varier, et qu'à terme, il y aura un comité des sages qui, en fonction de la croissance et de la démographie, pourrait baisser l'indice du point ou pas, et donc au final, ça serait une diminution des pensions qui se profilerait à l'horizon. Qu'est-ce que vous en pensez
sans doute que M. Fillon est
Est-ce
bien
que
informé.
Est-ce que Macron aurait ça derrière la tête quelque
non,
part
Non, mais là, c'est franchement n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut faire varier le point quand on veut. Et donc, on pourrait dire il a raison. Mais on peut aujourd'hui faire varier les trimestres pareil. Hein. Un trimestre égale tant de pension, on le fait varier. D'ailleurs, ça se fait, quoi. On le fait réellement varier. Y compris à l'ARCO et à la GER, qui sont gérés que par les syndicats. Et qui font varier aussi. Et là, c'est par point déjà.
Qui sont les régimes complémentaires.
Et c'est déjà par point. Donc, on ne voit pas du tout la révolution qu'il faudrait craindre de ce côté-là. En revanche, je craindrais davantage l'affirmation du gouvernement, par l'intermédiaire de Jean-Paul Delevoye, l'affirmation de la somme nulle. Aujourd'hui, c'est...
Rapidement, on va essayer de donner la parole aux autres quand même. Allez-y.
Oui, non, mais je peux arrêter. Mais aujourd'hui, c'est 14% du PIB qui est consacré au paiement des retraites. Et le gouvernement a décidé que ça serait toujours 14%, ça ne sera pas 14,5%, ça ne sera pas 15%. Or, le nombre de retraités va augmenter. Donc, c'est ou des baisses de pensions ou l'augmentation de la croissance.
Emmanuel Perrier, sur cette réforme des retraites, bonne, mauvaise nouvelle, comment vous l'avez lu? Ça vous laisse dubitatif, sans doute.
Oui, parce que oui, je toucherai une retraite, mais j'ose pas vous dire de combien, parce qu'elle sera absolument ridicule si jamais elle est versée. Mais peu importe.
En l'occurrence, la réforme ne parle pas des dominicains, mais...
Non, mais on est compris dedans. Hein, est compris dans les régimes. Je sais plus, c'est... Enfin bref, c'est à peine de quoi acheter un ticket de métro par jour. Et... je ne peux pas me prononcer sur ces aspects très techniques. En revanche, cette question de la réforme me laisse une remarque de fond qui est on voit les limites d'un système assurantiel. C'est-à-dire, un système assurantiel, ça a un très gros avantage qui est d'offrir un filet de sécurité sociale pour l'ensemble d'une population, et donc une certaine sécurité.
Qu'est-ce que vous appelez le système assurantiel ? Le fait qu'on recourt chacun à des assurances.
C'est-à-dire que c'est une répartition.
Voilà, le système par répartition actuel.
Voilà. Le système de solidarité.
D'accord. De solidarité. Oui, j'ai compris comment ça fonctionnait, mais je ne comprenais pas l'expression assurantiel.
Le deuxième aspect, qui est, je crois, essentiel du système à la française, en tout cas de la société française, c'est la solidarité entre générations. C'est-à-dire, on n'économise pas pour soi, mais c'est une assurance dans laquelle les jeunes générations payent pour les anciens.
Mais alors, où est la limite ? Quelle est votre remarque, en fait ?
Voilà, la limite, c'est que quand on passe dans le système de l'assurance, on déresponsabilise, c'est-à-dire que cette solidarité intergénérationnelle, elle est absolument essentielle à la vie sociale, mais en même temps, dès lors qu'elle passe sous le régime de l'assurance, je ne me sens plus responsable moi-même d'avoir suffisamment d'enfants qui puissent payer ma retraite, puisque les autres vont le faire. Voilà. Et ce que l'on a vu, c'est-à-dire qu'en l'espace de 50 ans,
vous voulez qu'il y ait une forme de déresponsabilisation, c'est ça, c'est...
Un système qui fonctionnait, dans lequel on avait suffisamment d'enfants pour financer les retraites des générations qui allaient venir, est un système qui est devenu aujourd'hui absolument déficitaire, parce qu'il y a une déresponsabilisation. Quand vous deviez payer, quand vous deviez vous occuper de vos vieux parents dans leurs vieux jours, eh ben, vous saviez qu'il fallait quelques enfants pour pouvoir assurer ça, et vous saviez que vous-même, vous profiteriez de ce système.
Mais vous n'en êtes pas à regretter cette solidarité collective qui fait quand même un peu l'honneur de la France
Je ne suis pas dans un problème de regret ou pas de regret. Je dis simplement que ça va de toute façon s'effondrer à cause de ce mécanisme-là. Voilà. C'est le problème des assurances.
Peut-être pas, parce que la loi prévoit, la nouvelle loi, prévoit que dès le premier enfant, il y aura une gratification supplémentaire.
Oui, mais en l'occurrence, il faut se dépêcher de les faire quand même. Oui, Daniel Cabanis.
Encore faut-il les faire.
Deux minutes.
Ils y sont.
Le problème qui reste entier, quel que soit le système choisi, c'est que en France, nous avons en gros un quart des personnes qui ont une activité, qui ont une rémunération extrêmement faible au début de leur carrière professionnelle et qui auront à peine mieux à la fin. Ouais. Ce qui veut dire que, quel que soit le système de retraite, ouais, elles auront une retraite extrêmement faible.
Oui, ça, c'est sûr, ça.
Et avec le risque, soit pour un nombre d'années plus grand, avec la phase d'extrême vieillesse qui est celle qui coûte le plus cher. Donc, l'affaire, c'est de savoir comment on répartit le gâteau en donnant une réelle conviction que ce que l'on fait est juste.
Donc, qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous entendez qu'il faudrait rajouter, il faudrait rajouter un élément fondamental dans cette retraite, qui est la solidarité avec les gens qui sont les moins lotis.
Bah oui, il faut trouver
le risque dépendance.
Voilà, le risque dépendance peut être une solution, et puis peut-être penser en amont à ce que chacun ait dans sa vie active une situation de dignité suffisante pour pouvoir aussi un peu prévoir. Les systèmes qui marchent bien ont tous une part de répartition, mais ont souvent une part, alors le mot est horrible dans la bouche d'un Français, une part de capitalisation. Et grâce à cela, le fait de pouvoir avoir une prise sur ce que l'on fait, ce que l'on va avoir, l'harmonie sociale est mieux maintenue.
Voilà, on aura l'occasion probablement d'en reparler. Merci beaucoup à nos invités d'avoir un peu défriché le terrain sur cette question de la réforme des retraites, puisque donc elle a été reportée au-delà des prochaines élections européennes. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.